LPR Radio.
Culture.
Sport.
Société.
La radio de votre bahut.
Bienvenue sur LPR Radio, la radio de tous les ados. Vous êtes présents aujourd'hui avec moi-même, Esteban, ainsi que Madeleine. Bonjour Madeleine, comment vas-tu ?
Bonjour Esteban.
Dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet ?
Alors, nous parlerons aujourd'hui de trois rubriques, le sport, la société et enfin la culture. Dans le sport, nous allons parler de la NBA, de la place de la NBA aux États-Unis, puis dans la rubrique société du comportement des Américains et des clichés que nous avons sur eux. Enfin, en culture, il y aura des animés, des mangas, mais aussi un sujet qui traite l'origine des musiques françaises.
LPR Radio.
Commençons directement avec Romane, chroniqueuse spécialisée dans le sport pour LPR Radio. Écoutons-la exposer les différences entre les sports en France et aux États-Unis. Bonjour Romane, l'antenne est à vous.
Bonjour Madeleine, bonjour Esteban. Effectivement, la France et les États-Unis sont différents, notamment au niveau sportif. Tout d'abord, certains sports sont spécifiques à chaque pays. C'est le cas avec le football américain, sport le plus populaire d'Amérique. En France, ces clubs se font très rares, avec environ 23 000 adhérents, contre 12 millions de licenciés pour les États-Unis. D'ailleurs, le 49e Super Bowl a battu un record d'audience avec 12,8 millions de téléspectateurs. 30 secondes de pub à 4,5 millions de dollars, un record.
Mais Roman, les États-Unis n'est pas qu'un pays de foot, il y a aussi le basket.
Oui, en effet. Les Américains, eux, donnent beaucoup d'importance au basket. Par exemple, lors de la mi-temps du All-Star Game, John Legend et Alicia Keys sont venus performer. Leurs matchs sont animés de mascottes, de pom-pom girls, qui dansent, jettent du pop-corn dans les gradins. Un véritable show à l'américaine. Ils emploient de grands moyens et voient les choses en grand. En France, ce sont le bruit des tambours qui résonne. Les matchs restent principalement des événements sportifs. Vous l'aurez compris, l'ambiance des matchs américains n'est pas comparable à celle des matchs français. Et vous alors, que préférez-vous ?
Je tiens à souligner notamment le talent de notre basketteur cinquantinois Rudy Gobert, qui est maintenant un très grand basketteur de la NBA. C'était donc Roman pour la rubrique de sport.
LPR
Radio. Passons désormais à la rubrique société. Cherilyn, envoyée spéciale de RPL Radio, a mené une enquête auprès des jeunes Français sur les clichés qu'ils portent sur les Américains. Écoutons ses retours sur les clichés américains.
Les Américains, je pense qu'ils aiment beaucoup manger les hamburgers. Généralement, tout ce qui est fast-food et autres. Que c'est assez beauf. On connaît tous l'Américain, genre, qui traîne un peu au bar, qui aime boire des bières, qui aime bien tout ce qui est western et tout ça, qui a une passion oufissime pour les armes et autres comme ça.
Beaucoup de personnes pensent qu'ils mangent mal, qu'ils ont souvent un problème de surpoids, qu'ils aiment beaucoup le sport, peut-être qu'ils ont tous un pistolet ou une arme à feu chez eux. Et il y en a beaucoup d'autres parce que c'est le pays de l'extrême.
Pour moi, les Américains, ils mangent pas spécialement variés parce qu'ils mangent du bacon, des œufs ou des flageolets et puis un petit peu de tout en fait. Chez les Américains, le port d'armes, il est illégal, donc ça fait qu'il y a eu beaucoup d'affaires de meurtre et le plus souvent, elles n'ont pas été élucidées.
Aux États-Unis, les contrôles, ils sont plus faciles puisque c'est sous forme de questionnaire.
Pour moi, les Américains, ils ont le permis avant nous et ça, c'est bien parce que ils n'ont pas besoin de prendre les transports en commun. Ensuite, ils font souvent des grandes soirées, ils organisent des balles de promo, tout ça, alors que nous, en France, on n'a pas ça.
J'ai fortement l'impression que les Américains ont beaucoup de mal à localiser d'autres pays que le leur. Ils sont nuls en géographie.
Après avoir écouté les a priori de chacun sur les États-Unis, est-ce que les lycées américains, tels que nous les voyons sur les séries, reflètent la réalité ? Lucie s'est renseignée sur le fonctionnement de ces derniers. Bonjour Lucie, nous vous écoutons.
Bonjour Esteban et Madeleine, je vais vous expliquer précisément les différences entre les lycées français et le high school américain. Pour commencer, la notation est différente. Les Américains ont une notation sur la base des lettres de A à F, alors que les étudiants français ont des notes de 0 à 20. D'autre part, nous avons la chance d'avoir des cantines. Les Américains doivent préparer en avance leur lunch pack. De plus, en France, le bac est un passage d'émotion pour les étudiants. Aux USA, il n'y a pas de bac, mais le high school sur le contrôle continu sur 4 ans.
Merci Lucie. Maintenant que nous avons ces informations, Lorraine, qui est une envoyée de LPR Radio, a mené un micro-trottoir sur le déroulement des cours en Amérique selon les Français. Écoutons les retours qu'elle a reçus.
On a à peu près des heures différentes de cours, basées sur certaines matières. On peut faire du 8h, 18h, tandis qu'aux États-Unis, pour moi, je pense qu'ils terminent les cours beaucoup plus tôt et ils ont des cours un peu spécifique.
Je pense que le système français est trop chargé. Genre, il y a trop de cours qui servent à rien par rapport aux États-Unis. Genre, en France, il y a trop de matières, c'est trop long.
Voilà, donc les cours en France sont des cours qui généralement durent 55 minutes, voire même 2 heures pour les groupes de spécialité. Et aux États-Unis, bah, j'imagine que les durées de cours sont un petit peu plus courtes, de mémoire d'avoir participé à un échange sur 50 minutes. Et avec davantage de multimédia qui entrent en ligne de compte, avec un accès Internet qui est facilité pour les élèves.
Bah, au niveau des cours en France, je trouve que c'est pénible, on peut dire, un peu. Parce que j'ai l'impression que les jours se ressemblent un peu tous. Mais après, franchement, la manière des profs d'apprendre, de faire apprendre aux jeunes, ça va, ça se passe bien. Mais comparé aux États-Unis, de ce que j'ai vu... dans les interviews, etc., c'est qu'ils avaient plus de possibilités, c'est-à-dire, par exemple, ils avaient des salles réservées pour leurs études, des grandes bibliothèques assez, comment dire, je sais pas vous, comment je peux vous expliquer ça, mais c'est vraiment des grandes bibliothèques. Après, au niveau des jeunes qui font du sport, notamment qui est mon cas, ils ont des salles de gymnase qui sont disponibles après leurs heures de cours. Donc en France, s'ils pouvaient proposer des choses comme ça, ça aurait été plutôt pas mal.
Toujours au sujet des cours, Tania, autre chroniqueuse, va nous présenter l'enquête qu'elle a menée sur l'environnement, ainsi que les rôles des éco-délégués en France. Tania, c'est à vous.
Alors oui, bonjour Esteban, bonjour Madeleine. Aujourd'hui, nous allons parler des éco-délégués. C'est une disposition qui a été mise en France depuis l'année 2019-2020. Leur rôle consiste à être respectueux de l'environnement et de montrer l'exemple aux élèves du lycée, comme les sensibiliser à des gestes plus responsables au quotidien, tels que éteindre les lumières, la bonne régulation des chauffages. Être éco-délégué, c'est aussi pouvoir porter des projets sur la biodiversité, tels que diminuer l'impact énergétique ou promouvoir des gestes éco-responsables. Les éco-délégués ont 4 missions principales. Porter des projets collectifs, être ambassadeur auprès des services ou transmettre des informations aux camarades, mais aussi de faire attention à la consommation d'énergie ou éviter le gaspillage alimentaire, réduire les déchets et faire du tri sélectif. En 2020, c'est 94% des jeunes qui disent être inquiets pour leur environnement futur. Mais est-ce que les jeunes inquiets agissent-ils pour l'avenir ?
Bonjour, je suis Bovin Thomas, élève de TG5 et éco-délégué depuis 3 ans, et je vais vous présenter ce qu'est le travail de l'éco-délégué. Alors, on assiste à plusieurs réunions. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui y assistent, mais... Et nos projets sont de rendre le lycée un peu plus propre, de créer des jardins, histoire de rendre le lycée un peu plus beau, ou encore de faire des collectes pour les personnes dans le besoin. On a vu que l'année dernière, ça avait fonctionné avec les jouets, donc pourquoi pas renouveler l'idée cette année.
Parlons maintenant des réseaux. 75% des 16-25 ans utilisent cette fameuse application qui est Snapchat. Mais à quel point les réseaux sont-ils ancrés dans notre quotidien ? Enquête menée par Ophéline, basée sur les différents témoignages. Elle a donc demandé combien de temps passaient-ils sur les réseaux et lesquels ils utilisaient. Et enfin, quel impact cela a sur le sommeil et la vie en général. Écoutons-les.
10 minutes, juste pour discuter avec ma fille, qui du coup m'envoie des photos, et pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe chez les autres. Le sommeil, je pense, à cause notamment des lumières bleues. Et puis ça occupe le cerveau à d'autres choses que le sommeil, justement, à l'endormissement. Et ensuite, la deuxième question sur la vie, je pense qu'il vaut mieux passer du temps en famille, à discuter avec ses proches, à jouer à des jeux de société, à travailler, à faire ses cours, plutôt que de passer du temps sur les réseaux sociaux.
J'utilise Discord, je pense, le plus, parce que je joue à des jeux, je joue à un jeu sur la console. Et pour parler avec les gens avec qui je joue, déjà en moyenne toute la soirée, je pense 5 heures par soir au moins, la journée de temps en temps. On a un besoin d'y aller, c'est une sorte de curiosité pour nous. Par exemple, moi perso, je vais coucher plus tard avec les réseaux que sans. Donc ça a un impact par exemple sur la fatigue, et du coup ça a un impact sur les cours parce que j'ai du mal à me concentrer. Ou...
Beaucoup, beaucoup de temps. Franchement, si je pourrais utiliser toute la journée, quand je peux j'y suis quoi. Ouais, oui, par rapport à tout ce qui est fatigue, concentration.
Je dirais entre 2h30 et 3h à peu près. Snapchat, Instagram,
Un petit peu Twitter. Ouais, un petit peu pour m'informer, mais surtout pour passer le temps dans la journée. Un gros impact sur le sommeil, c'est pas forcément bon. Avec la lumière bleue et tout ça, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Ça m'empêche pas de l'utiliser régulièrement.
Deezer, je pense. TikTok. Pas de téléphone, PC.
Alors Madeleine, qu'en penses-tu de ces réponses reçues ?
Non, je pense qu'ils abusent, je n'y suis pas autant, même si je l'admets. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Bref, merci d'être encore là à nous écouter. Passons désormais à la rubrique culture.
LPR Radio.
LPR Radio. LPR Radio.
Parlons peu, parlons mode. Notre envoyé spécial Zélie a également pris des retours sur un micro-trottoir abordant la mode aux États-Unis. Place à Zélie.
Bonjour Madeleine, bonjour Esteban. Avec notre équipe, nous avons directement interrogé des élèves de notre lycée sur cette question. Quelle est la tenue parfaite pour un lycéen français ?
Il s'habille comme il veut, chacun ses goûts.
Les élèves s'habillent comme ils veulent, ça dépend de leur choix, s'ils ont envie de mettre, s'ils veulent porter des jupes ou des pantalons, ou encore des jogging. Enfin, on est dans un lycée public, donc ça n'a pas d'importance.
Pour moi, le outfit parfait pour un lycéen français, disons que c'est un jean slim, une paire de baskets avec des couleurs un peu sobres, passe-partout, je dirais. Et après, c'est ma vision, et je dirais une petite chemise et une petite veste.
Alors, l'outfit parfait pour un lycéen, pour moi, c'est se mettre à l'aise pour bien étudier. Donc, un jogging avec un sweat, c'est parfait.
Pour moi, une tenue parfaite, c'est on est libre de s'habiller comme on veut tant qu'on se sent bien. Je pense pas que la tenue, ça a un rapport avec notre scolarité.
Dans les lycées français, les élèves ont le droit de porter ce qu'ils veulent, selon leur goût, mais en respectant une certaine limite, une tenue plutôt décente. Certains établissements, comme celui de Dax, dans les Landes, ont d'ailleurs mis des affiches avec des photos de tenues interdites. Jupes bien au-dessus du genou et nombril apparent ont ainsi été placardés. Suite à cela, de nombreuses lycéennes scolarisées à Dax ont créé un vent de révolte qui a fini par gagner la France entière. Partout, des jeunes filles sont venues au lycée habillées en jupe ou en crop top. Depuis cette révolte, plus de drama. Et au fait, est-ce qu'on s'occupe de la tenue des garçons ?
Ensuite, les mangas animés. Savez-vous que les Français sont les deuxièmes plus grands lecteurs de mangas ? Corentin a effectué un micro-trottoir sur ce sujet. Écoutons-le.
Bonjour Madeleine, bonjour Esteban. J'étais demandé aux lycéens ce qu'ils pensaient de l'arrivée des mangas et animés en France. Voici leur réponse.
Moi je trouve que c'est bien parce qu'à la base c'était une culture qui était surtout au Japon et qui était un peu moquée en France. Et du coup la démocratisation de... Parce que c'est un art, en soi c'est un art. Et du coup moi je trouve ça vachement intéressant.
Ça s'est bien plus développé que dans d'autres pays déjà.
C'est cool surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment ça. Ça va augmenter la pop culture, donc c'est une bonne chose je trouve.
Que penses-tu de l'arrivée des mangas ou animés en France ?
Je trouve ça vraiment cool parce que du coup ça pourrait permettre à plus de gens de connaître ça et de pouvoir s'intéresser à ce genre de lecture.
Moi je trouve ça cool que d'autres cultures viennent en France.
Finissons sur un thème qui nous parle tous, la musique et notamment le rap. Notre invité Kylian s'est intéressé à ce sujet. Bonjour Kylian, dites-nous comment le rap est arrivé en France.
Bonjour, déjà merci de m'accueillir ici. Et, c'est le sujet auquel je me suis intéressé, c'est du coup le rap comme vous avez évoqué tout à l'heure. Pour mon étude, je vais commencer. Le rap est une culture musicale née dans les années 80 aux États-Unis. La France en est rapidement inspirée. On retrouve des similitudes chez Booba, Neuf de Ziveron.
Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des alertes au rang présent, certains n'en reviennent pas.
50 Cent.
When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the...
Dans les années 80, c'est le gangsta rap qui est populaire. Les grosses voitures et le luxe sont apparents chez les artistes et également dans les clips. Le rap était avant tout un moyen de dénoncer des faits de société, mais avec l'arrivée des clips, le rap est aussi devenu un moyen de montrer son argent. Au fil des années, le rap français a connu du succès, de par son panel d'originalité qui ne cesse de grandir. Ses flots se diffusent dans toute l'Europe, et à chaque année, de nouveaux thèmes se créent, comme la drill avec Pop Smoke, Central C, ou Freeze Corleone qui a fait son arrivée ces derniers temps. Cependant, le rap permet aussi d'exprimer un sentiment tel que l'amour et la tristesse. Par exemple, comme auteur français, on a Orelsan, Joker, Népal, Nekfeu, Jossman ou encore Damso. Ainsi, la particularité de chaque artiste est visible grâce à leur plume. Des textes sont parfois très engagés pour la société, comme Damso qui s'est permis d'écrire l'hymne de la Belgique pour son équipe de football. D'autres sont moins engagés, comme Nino qui exerce un rap plus dirigé vers le plaisir. De là, on comprend que le rap français a son propre charme et n'a rien à envier aux États-Unis.
Merci beaucoup Kylian, merci, et merci à vous de nous avoir écoutés. On va donc vous laisser sur un extrait de Nino, comme a pu le présenter Kylian.